7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Si je vous parle d'un homme qui était écrivain, financier, espion, horloger, maître de musique et défenseur des révoltes américaines, il est peu probable que vous songiez immédiatement à Beaumarchais. Cela fait partie des choses qu'on découvre dans l'ouvrage que vous publiez, Eric Orsenna. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là.
Est-ce que vous me permettez de dire un petit mot sur le Cachemire ?
Mais de tout.
Parce que après cet édito magnifique, j'ai lu un roman il y a longtemps qui expliquait ce qu'était le Cachemire. C'est un roman de Salman Rushdie qui s'appelle Shalimar le clown. Et c'est un immense roman et qui montre que le roman peut vraiment expliquer la réalité. Donc c'est un endroit qui devrait être un paradis et qui est en train de virer à l'enfer. Donc lisez Shalimar le clown.
Moi j'ai lu Beaumarchais, un aventurier de la liberté.
C'est autre chose.
C'est ce que vous avez écrit et publié à la suite de ce que les auditeurs ont peut-être écouté ou ce qu'ils peuvent écouter sur le site de France Culture, autrement dit la série de 8 épisodes que vous avez consacrée à Beaumarchais ou l'aventurier de la liberté qui a été donc diffusé cet été et où j'ai appris énormément de choses sur cet homme dont on connaît les œuvres théâtrales mais dont on connaît mal la vie et d'abord le fait que cet homme a eu une multitude de vies, Eric Orsenna.
Oui, alors c'est ça ce qui m'a frappé parce qu'au départ j'étais exactement comme vous, moins cultivé que vous, mais j'ai essayé de rattraper un peu mon écart.
Et donc,
oui, il faut toujours commencer comme ça. Et donc l'idée de voir la vie de ce personnage et la vie de ce personnage qu'on découvre dans son théâtre. Parce qu'une chose m'a frappé dès le début, c'est que ce Beaumarchais naît un siècle plus tard à 200 mètres de l'endroit où était né Molière. Donc quand il sort dans la rue, il se retrouve dans la ville de Paris, qui est à l'époque la plus grouillante, la plus vivante de toute l'Europe. Alors son père est horloger, un horloger de bonne qualité, reconnu. Lui-même va être apprenti horloger. Et puis il a un culot inouï. Pourquoi il a un culot inouï, semble-t-il, sans faire de psychanalyse de bazar, mais il a 5 sœurs et il est adoré. Donc, sur cette base-là, il construit une confiance absolue, ce qui fait qu'à 18 ans, il trouve un petit système que dans l'horlogerie, on appelle l'échappement. Et alors, un des clients principaux de son père vient, qui est l'horloger du roi, vous imaginez? Alors, il lui explique son système, naïvement. Et le type, le grand client, va lui piquer son système. Alors son père lui dit « Calme-toi, calme-toi mon garçon, tu n'as que 18 ans ». Pas du tout. Il monte au créneau, il l'envoie partout dans la France entière, toutes les petites académies régionales comme ça, pour défendre son projet. Et il a gain de cause. L'Académie des sciences lui donne raison. Donc ça, c'est le début des innombrables batailles de Beaumarchais.
Oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. « Ma vie n'a été qu'une suite de combats », alors que finalement, vous racontez, Eric Orsenna, une ascension extrêmement rapide. On n'a pas vraiment l'impression qu'il a escaladé une montagne avec les ongles.
Non, mais il sent à chaque fois, il bouge. Autre exemple, immédiatement après, il a 20 ans. Il s'est fait connaître grâce à ce procès retentissant. Et il se dit, vendre des montres, même des montres magnifiques, ça ne suffit pas pour vraiment s'installer dans la société. Donc, il va vendre des montres à la cour, mais comme il fait de la musique depuis qu'il est né, avec ses sœurs, à l'allemande, vous savez, toute la famille joue, et ça. Il réussit, je ne sais comment, à devenir maître de musique des filles de Louis XV, etc., etc. Donc, il commence là. Et puis après, il se dit que, au fond, les montres, et puis la musique, c'est bien, mais c'est pas suffisant, maintenant, il faut de l'argent.
Alors comment fait-il pour avoir de l'argent? Parce qu'il songe, vous expliquez qu'en matière d'amour, il est comblé de par sa famille. Par conséquent, ce qu'il recherche, c'est une union, mais pas forcément une union d'amour.
Pas forcément, c'est-à-dire avec lui, et ce qui m'a beaucoup intéressé, d'abord de raconter le portrait d'un inventeur de la liberté. Vous savez, il y avait un livre, il y a quelque temps, de Jean Starobinski, qui parlait du XVIIIe siècle, et il qualifiait ce XVIIIe siècle comme l'invention de la liberté. C'est là où on invente la liberté. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est exactement ce que un président de la République dira qu'il a inventé plus tard, c'est-à-dire le « en même temps ». C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être seulement horloger, seulement musicien. On peut être financier, pourquoi pas, et on peut écrire des pièces. C'est ça, cette ivresse de la liberté, cette gourmandise formidable de vivre qu'il y a le XVIIIe siècle. Et ça m'a absolument passionné de raconter ça.
Comment fait-il votre Beaumarchais pour devenir dramaturge, puisque a priori on ne s'improvise pas dramaturge.
Alors, Éric Orsenna, il s'était fait plus ou moins adopter par un financier, et le financier, il donnait des fêtes, et dans ces fêtes, il y avait des pièces. Et alors, Beaumarchais commence à écrire des petites piécettes, et puis il compose aussi de la musique. Et puis ça lui donne envie de faire plus. Et comme il a ce culot incroyable, il annonce à tout le monde qu'il a écrit une pièce de génie. De génie. Donc tout le monde est là, l'attend, et c'est cette histoire du Barbier de Séville, qui est une histoire absolument incroyable. Parce que le jeudi, à 19h, le rideau se lève sur cette pièce qu'il a annoncée comme un chef-d'œuvre. Au bout de 5 minutes, tout le monde bâille. Au bout d'une demi-heure, tout le monde siffle. Au bout de 3/4 d'heure, tout le monde se tire. Les critiques arrivent en rafale et disent « s'il y a une chose sûre, c'est que ce carreau de Beaumarchais, parce qu'entre-temps, il s'est évidemment acheté un nom, une particule, etc., est fait pour tout, sauf pour le théâtre. » Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « la cabale est à faim, je vais lui donner à manger. » Donc, il s'enferme chez lui, du 22h le jeudi, il travaille sans arrêt. Les comédiens se multiplient, arrivent chez lui en disant « Mais attendez, il paraît que vous changez tout. » « Mais oui, je change tout. Et comment est-ce qu'on peut savoir puisqu'on va jouer ?» Et à 17h, le dimanche, dans la même salle, le rideau se lève et là, c'est le triomphe. Et alors moi, ça m'amuse beaucoup parce que c'est quand même le retravail. Parce que ce type qu'on dit « touche à tout » comme ça, etc., est un travailleur de folie. Et puis, quand le réel est là, et lui dit, ta pièce est nulle. Il dit, bon, ma pièce est nulle, eh bien, je vais changer et en faire un chef-d'œuvre.
Et alors, du coup, c'est quelqu'un qui, avec sa volonté, telle que vous le décrivez, Éric Orsenna, est capable de s'inventer, donc de se réinventer, puisque vous montrez en fait comment il réussit à triompher des embûches. Et finalement, sa vie est une manière de considérer que la noblesse, tout ce qui s'hérite, tout ce qui fait que finalement on est par sa naissance et pas par sa volonté, par son travail, eh bien tout cela est un vieux système qu'on peut jeter aux orties.
Oui et non, parce que c'est ça qui est amusant, parce que c'est un révolutionnaire malgré lui. Parce que, et j'avais cité le titre, est-ce que c'est un aventurier de la liberté ou est-ce que c'est un révolutionnaire malgré lui? Parce qu'il a tout fait pour entrer dans la noblesse. Il a tout fait, mais pour lui, la vraie noblesse, c'est celle qu'il a acquise, c'est à force de travail, à force d'argent. Parce que les autres, vous avez cité dès le début cette phrase incroyable, « Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes contenté de n'être rien de plus, point, du reste, homme assez ordinaire. » C'est ce que Figaro dit au comte. Et pour cette seule phrase, la pièce « La folle journée » qu'on appelle maintenant le mariage de Figaro, sera interdite dans l'Europe entière.
Mais oui, alors c'est une pièce qui va inspirer Danton, Robespierre.
Ah ben, qui disent, c'est le brûlot. C'est par cette flamme-là qu'on a allumé la Révolution. Donc c'est ça, cette contradiction incroyable. Et le plus amusant, je reviens du festival de musique de William Christie. Et j'ai lu, avec des musiciens merveilleux, j'ai lu un mini-spectacle où je raconte le passage du mariage de Figaro aux noces, c'est-à-dire la pièce de théâtre, jusque à l'opéra. Parce que la pièce, à peine écrite, est interdite dans l'Europe entière. La pièce, imaginez cette scène du 12 octobre 1781, où, dans les appartements royaux de Versailles, la lectrice de la reine, Madame Campan, lit la pièce devant Marie-Antoinette qui est ravie et Louis XVI qui ne décolère pas. Donc, parce qu'elle est ravie de cette liberté, ça va dans tous les sens. Et Louis XVI dit, mais attendez, vous attaquez le fondement même de l'Ancien Régime. C'est vrai que si on remet en cause la naissance... Vous savez, quand on disait de quelqu'un, il n'est pas né. Alors on se demande qui ils existaient, mais ils n'étaient pas nés. Vous êtes nés et vous êtes pas nés. Alors si on remet en cause cette sorte de naissance pour une petite partie de la société, on effondre la société même.
Alors en fait, les contradictions de ce Beaumarchais, c'est d'avoir des goûts, aujourd'hui on dirait des goûts de grands bourgeois, mais à l'époque on disait des goûts de nobles. Du coup, il se fait construire un palais, il se le fait construire à côté de la Bastille.
Non, attendez, le type, il est quand même incroyable. Parce que là, il y a tout Beaumarchais. C'est-à-dire que... il entend dire, Il entend dire par ses réseaux, par ses oreilles dispersées partout, parce qu'il a été espion aussi, hein, il entend dire que l'administration envisage de détruire la grande prison de la Bastille. Il se dit « Formidable !» Il va y avoir là une opération immobilière. Donc il achète un hectare, à l'endroit où il y a le boulevard Beaumarchais aujourd'hui et la boîtier de la place de la Bastille. Et il fait un palais. On a évalué à environ 10 millions d'euros, qui fait visiter. Sauf que les travaux sont finis en avril 1789. Et que si la révolution éclate, elle éclate là, au cœur de Paris, qui est l'endroit le plus actif de Paris, où il y a des tas d'entreprises.
Alors du coup, il est une place privilégiée, Éric Orsenna.
C'est évidemment dévasté. Tout le monde se méfie de lui, parce qu'il a trahi un peu tout le monde. Tout le monde se méfie de lui, d'autant plus que, pour se faire bien voir, il imagine d'acheter à un libraire, 40 000 fusils. Vous voyez, 40 000 fusils, et qui va vendre 14 fois. Et donc, comme les gouvernements changent sans arrêt, chaque ministre, pendant la très courte période où le ministre veut s'occuper de ces 40 000 fusils et de toucher un peu d'argent. Donc, de temps en temps, il est au sommet, de temps en temps, il est au plus bas. Et puis, il ne sauvera sa tête que grâce à une ancienne maîtresse qui est aussi la maîtresse d'un procureur. Ça peut toujours servir.
Et dans les différents épisodes de sa vie, dans toutes ses vies, Beaumarchais, en fait, on voit tous ses dons. Vous venez de citer un don supplémentaire, celui qu'il a pour l'économie et le commerce, Éric Orsenna.
Imaginez que c'est le premier actionnaire de la première société de distribution privée de l'eau à Paris. Jusqu'alors, on montait les eaux dans les étages avec des brocs, des choses comme ça, etc. Donc il dit pas du tout, on va faire des tuyaux. Et là, il fait une fortune. Mais imaginez aussi que pendant ce temps-là, comme il aime la liberté, et que la France ne veut pas affronter directement l'Angleterre, très puissante, c'est lui, alors qu'il a jamais vu la mer de sa vie, c'est lui qui devient armateur, et il va armer 40 bateaux, qui vont jouer à cache-cache avec la marine anglaise, qui est la plus puissante du temps, pour aller jusqu'en Amérique, apporter le soutien aux révoltés. Cette vie, mais Netflix à côté, mais c'est rien, c'est une vie minuscule.
Bon, alors, le problème, c'est que votre camarade est trop doué, Éric Orsenna, et oui. Cela crée des jalousies.
Ben bien sûr, il est jalousé partout. D'abord, parce qu'il y a quelques maris qui trouvent qu'il est un peu insupportable. J'ai retrouvé, parce que c'est quand même mon métier d'académicien, de retrouver des noms et leur donner vie et leur donner forme. C'est le mot guerluchon.
Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire, guerluchonner? Puisque j'ai appris que ça pouvait se conjuguer. Éric,
oui, ça peut se conjuguer, ce que je vous souhaite d'ailleurs, en dépit de votre activité nocturne ici, présente.
Oui, tout à fait honnête.
Oui, soyons honnêtes. Guerluchonner, c'est normalement l'amant d'une femme mariée. Mais ça s'est étendu à toute activité intime, rémunérée. Et alors, il y a un saint guerluchon, et dont le culte est encore continué, notamment dans certaines régions de France, le Berry, s'il y a des auditeurs qui sont dans le Berry, et le saint guerluchon est toujours pourvu d'un attribut qui prouve sa capacité, puisque ça peut aider à la fertilité.
Et on dit que
certaines nuits, les femmes viennent raboter un tout petit peu le dit attribut pour s'en faire des décoctions. Donc vous voyez à quel point quand vous travaillez durement, péniblement, comme ça a été mon cas, avec acharnement sur une biographie de ce type, ce que vous découvrez à la fois de la géopolitique et de l'intimité des femmes du Berry.
Mais alors, en tout cas, la jalousie ou la manière dont Beaumarchais était envié ne tenait pas uniquement à sa propension à guerluchonner. Il avait aussi une capacité à amasser qui était assez considérable, Éric Orsenna, et puis un peu à se vanter.
Alors, il est toujours extraordinairement content de lui depuis le début, puisqu'il y a donc ses cinq sœurs peut-être, et puis tout ça. Puis c'était sa nature. Donc, il est toujours très, très fier de lui. Donc, les gens le trouvent absolument insupportable. Et puis, il amasse et il perd. Il perd tout. Par exemple, avec les États-Unis, il va perdre. C'est-à-dire que les 40 bateaux, les États-Unis, les jeunes immigrés, ce jeune pays n'avait pas l'argent pour lui payer. Donc, je lance un appel aujourd'hui, d'ailleurs avec la famille, en demandant que Trump veuille bien rembourse les dettes que les États-Unis ont contractées vis-à-vis de la France. Donc, parce que les insurgents, les révoltés, avaient dit « on vous paiera en nature ». Et puis, une fois qu'ils ont été indépendants, évidemment, ils ont complètement oublié cette dette. peut-être non. Donc là, moi, je serais Trump, je ferais attention, parce que j'ai quelques amis avocats et on va commencer à attaquer.
Vous en faites un aventurier de la liberté, bon marché, Eric Orsenna, mais cet aventurier de la liberté se bat pour la liberté, notamment la liberté de créer. Et là aussi, il a un rôle tout à fait important que j'ai découvert dans votre ouvrage.
Ben c'est les droits d'auteur, puisque il avait été très lui est le seul qui n'a pas besoin d'argent. Mais tous ses confrères, écrivains, ils sont au fond pris par qui ? Non pas par les GAFA et autres d'aujourd'hui, mais les droits d'auteur, ils sont piqués par qui ? Par les comédiens. C'est-à-dire c'est la comédie française qui pique les droits d'auteur et de temps en temps distribue des oboles, voilà. Et alors, ce qui l'avait frappé, c'est qu'on voit des personnages immenses comme Corneille qui ont vécu dans la misère parce que ils recevaient rien. En gratitude de leur triomphe. Donc il va se battre pendant des années et en 1791, enfin, le principe du droit d'auteur sera reconnu. Et comme toujours dans une biographie, ce qui m'intéresse, c'est les questions posées aujourd'hui et les questions qui ne sont pas encore résolues parce qu'on voit que ce droit d'auteur, au fond, c'est très récent, 1791. Et on voit à quel point il est menacé.
Alors, évidemment, Eric Orsenna, comme on vous connaît un peu, on se dit qu'il y a un certain nombre de points communs entre Beaumarchais et vous.
Ouais, le génie en moins, quoi. Voilà. Et puis la capacité de faire de l'argent. Vous voyez, non, il y a des grandes différences. Et puis une capacité à séduire bien moins. Donc je suis une sorte de bonsaï.
Par exemple, le fait d'évoluer dans différents univers. Vous avez été conseiller de François Mitterrand, lui a été au cœur du pouvoir. Le fait de ne pas s'appeler Eric Orsenna quand vous étiez petit, je crois que ça n'était pas votre nom. Non, au marché aussi. Bref.
C'est vrai. Non, mais comme toujours dans les biographies, on ne choisit pas. Mais vous savez, j'ai fait une biographie de Pasteur. Je suis nul en biologie. J'ai fait une biographie aussi de Le Nôtre. Ce qui est, vous savez,
ça vous a permis quand même de réfléchir vous.
Ce que c'est que la liberté.
Et ce que c'est que le pouvoir.
Et puis ce que c'est que le pouvoir, mais sans être directement au cœur du pouvoir. C'est-à-dire sans exercer une fonction. Et on peut imaginer, par exemple, que par rapport à des ministres de la marine ou autres, l'action privée de Beaumarchais a été plus importante. Donc, quelle est la réalité de l'action ? Est-ce que c'est le poste ou est-ce que c'est l'action elle-même ? Vous voyez, c'est quand vous vous promenez dans ce genre, vous abordez des tas de choses.
Eric Orsenna de l'Académie française, Beaumarchais, un aventurier de la liberté, c'est l'ouvrage publié aux éditions Stock France Culture à retrouver suite à ce feuilleton, 8 épisodes, que vous avez diffusé cet été sur France Culture, bien sûr, et qu'on peut retrouver sur le site de votre radio préférée. En attendant, il est 8h sur France Culture.